France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Lord Keynes et ses sept vies. En juillet 1944, la conférence internationale de Bretton Woods fit une ovation debout à Keynes lorsqu'elle créa, à son initiative, le FMI. L'auteur de la théorie générale de l'emploi offrait en effet aux modernisateurs d'après-guerre le cadre de pensée dont ils avaient besoin pour organiser efficacement les investissements publics qu'ils injectaient dans l'économie. Disparu ensuite en pleine gloire en 1946, Keynes avait en fait traversé les tempêtes du siècle en menant chaque jour plusieurs vies, enseignant et collectionneur de tableaux, et spéculateur à la City, conseiller des puissants, amant d'hommes si nombreux qu'il faudrait renoncer à en faire la comptabilité s'il ne l'avait tenue lui-même, et toute la dernière partie de sa vie, mari fidèle d'une danseuse des ballets russes, star au bras d'une star. La biographie de Keynes est un roman. Quant à ses vies posthumes, on n'en a pas épuisé la liste. Très décrié depuis les années 1980, voici qu'il revient en force avec la crise de 2008-2011. Ce n'est pas un simple effet de balancier, c'est que son œuvre regorge de ressources théoriques toujours puissantes. Bernard Maris, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié aux presses de Sciences Po un livre consacré à Keynes, l'économiste citoyen, avant même ce retour de balancier. Vous êtes, comme Keynes l'a été un moment maintenant, membre du Conseil général de la Banque de France, que nos auditeurs de France Inter, qui vous connaissent bien, ignorent peut-être encore.
Oui,
lui, c'était la Banque d'Angleterre.
Lui, c'était la Banque d'Angleterre. Il était au board, donc au Conseil, pour parler français, il était au Conseil de la Banque d'Angleterre.
Tout a commencé, on ne va pas dire comment ça a commencé, cette nomination pour vous, ça a un lien avec le président du Sénat, peut-être ?
Oui, exactement.
Tout a commencé pour Keynes, à Cambridge, où il naît en 1883.
Sur la Tamise, on donne le départ du classique Oxford-Cambridge à l'aviron. Voici l'équipe d'Oxford. Dès le début, Oxford prend la tête. Au passage, sous le pont de Hammersmith, l'avance du 8 d'Oxford s'est encore accentuée. Décidément, Cambridge n'est pas en forme. Cambridge termine à 3 longueurs, mais garde le record avec 48 victoires.
En fait, notre héros, Keynes, déteste l'aviron, mais alors il est de Cambridge jusqu'au bout des ongles.
C'est un enfant de Cambridge. Il aime cette ville. Il aime la rivière Cam, hein, qui a donné le nom à Cambridge. Il va canoter avec ses amis, qui seront souvent ses amants. Il adore paresser, mais c'est absolument un anti-sportif. Il déteste le sport. Il n'a jamais aimé le sport. Et il va parfois au match de rugby. Il aime les cris de la foule. Il dit que ça lui plaisait d'écouter ça, mais ça l'impressionne, ça lui fait peur.
Le sport, les cris de la foule, mais la populace.
La populace, non, ça, la populace grosse. Grossière et mal éduquée, comme il disait, ça ne lui plaît pas du tout.
À Cambridge, il est très attaché à une société un peu clandestine qu'on appelle la Société des Apôtres, qui se réunit rituellement tous les samedis soirs. Et puis à Londres, à celle de Bloomsbury, qui, elle, se réunit dans ce quartier de la capitale le vendredi et à laquelle appartient M. Wolfe, le mari qu'on entend. Il est veuf à l'époque de l'enregistrement de Virginia.
We were simply a fortuitous aggregation of friends who happened to live together.
C'était tout simplement une réunion d'amis. Nous étions politiciens, artistes ou écrivains.
Artists and some of us were writers. Well, it really consisted originally of 13 people.
Il était constitué à l'origine de 13 personnes, 3 femmes et 10 hommes. Parmi ces 13 personnes, il y avait les 3 Stephens, Vanessa Stephen, Virginia Stephen et Adrian Stephen. Vanessa Stephen avait épousé Clive Bell, qui était l'un des membres originels du groupe. Et moi, j'avais épousé Virginia. Il y avait Lytton Strachey, Maynard Keynes, Roger Fry, Duncan Grant, le peintre,
E.M. Forster
et Saxon Sidney Turner, qui travaillaient au Trésor. Mais aussi Desmond McCarthy et sa femme Polly, qui vivaient à Chelsea.
Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, Bernard Maris? Ils les échangeaient?
Alors, ils échangeaient, ils pratiquaient ce qu'ils appelaient la médisance. Ils adoraient médire les uns des autres. Et puis, ils échangeaient aussi beaucoup d'idées. C'était des gens extrêmement intelligents, très, très brillants. Et ils échangeaient aussi sexuellement, puisque Vanessa, la sœur de Virginia Woolf, donc Vanessa Stephen, a été la maîtresse de Duncan Grant, ensuite l'épouse de Duncan Grant. Mais Duncan Grant avait été aussi l'amant de Maynard Keynes. On ne dit pas John Maynard Keynes, on dit, il a raison, on dit Maynard Keynes. C'était l'amant de Maynard. Et Maynard a été aussi l'amant de Lytton Strachey aussi. Et puis du frère de Lytton Strachey, de James Strachey. Donc tout ça.
Ils échangeaient des idées sur des lectures. Ils échangeaient des idées sur la lecture de Freud, par exemple.
Voilà, par exemple. Alors ce sont eux qui ont découvert Freud et qui ont fait découvrir Freud à l'Angleterre. Je dirais que le groupe de Bloomsbury, qui était très lié avec le groupe des apôtres, qui sont les plus brillants intellectuels d'Angleterre, puisque par exemple Bertrand Russell ou Wittgenstein a été apôtre aussi. Wittgenstein aussi a été l'amant de Keynes, pas très longtemps, mais enfin bon. Et donc tous ces gens étaient extrêmement intelligents, extrêmement érudits. On peut dire qu'ils ont introduit deux choses en Angleterre. Ce sont la peinture française, ils ont introduit d'une part, et d'autre part Freud. Ça a été quand même la grande découverte, et ils ont traduit et introduit Freud en Angleterre.
On n'imagine pas nos économistes aujourd'hui à chapeau pointu, vous les décrivez ainsi dans votre livre, très férus de leur spécialité. Je ne dis pas avoir des mœurs comparables à celles que vous décrivez, mais... Parler de psychologie et considérer que la psychologie et la psychanalyse, c'est essentiel quand on fait de l'économie.
Non, ça a été justement la grande découverte de Keynes, et je pense que c'est pour cette raison qu'il est extrêmement actuel. C'est qu'il a découvert que beaucoup de phénomènes économiques étaient liés à la psychologie, soit à la psychologie personnelle, soit à la psychologie collective, les mouvements de foule. Par exemple, Keynes a été un grand théoricien de la bourse, lui-même ça a été un spéculateur, il a beaucoup écrit sur la bourse, sur la monnaie, et sur la bourse, il pensait que c'était vraiment le mouvement de foule, les paniques, les engouements collectifs, le mimétisme, le panurgisme, tous ces phénomènes qui pouvaient expliquer...
Là, vous parlez de psychologie collective, mais comment fait-il la transposition de la psychologie individuelle, qui consiste peut-être à dire que l'argent est un désir infantile, voilà, à la psychologie collective.
Alors ça a été sa grande question, ça a été de dire pourquoi les hommes sont tellement cupides, pourquoi ils ont cette soif inextinguible d'argent, pourquoi ils désirent toujours plus d'argent. Il est allé puiser dans les théories freudiennes de l'argent, qui sont des théories un petit peu particulières, hein, que je ne vais pas décrire ici. Il est allé puiser dans les théories freudiennes de l'argent, le désir infini d'argent qui est un désir pour lui proprement infantile et qui fait qu'on est toujours insatisfait. Et le fait de posséder de l'argent ne satisfait jamais les hommes. Ça, c'était sa théorie.
Keynes était très doué pour le portrait. Il a fait un portrait de Wilson à l'occasion de la conférence de paix à laquelle il a participé. Freud aussi a fait un livre sur Wilson. Nous sommes maintenant en 1918-1919, enseignant, conseiller des puissants. Keynes se retrouve dans la délégation britannique, la conférence qui fait suite à la Grande Guerre.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je déclare la conférence de paix de Paris officiellement ouverte.
I don't think there is any question that we are here to decide the issue of German guilt.
Nous sommes réunis ici pour évoquer la question de la culpabilité allemande et des réparations dues par l'Allemagne. Nous voulons que nos pays soient reconstruits.
Monsieur David Lloyd George, Premier ministre de la Grande-Bretagne.
I too believe the issue of reparations.
Je crois aussi que la question des réparations doit être réglée rapidement. Il ne s'agit pas seulement d'indemniser les victimes. Elles ont subi des pertes terribles et inimaginables. C'est une question de justice. Ceux qui ont souffert, Français, Anglais, Belges, Italiens et beaucoup d'autres, veulent des compensations pour la guerre.
C'est une question de vie et de mort.
C'est une question qui devient populaire. On entend partout sur des tons différents. Quel est donc celui qui gagna cette guerre dont le monde entier depuis longtemps, partout on glorifie le tigre, et Wilson, proche, maître et gros. Ces grands-là, faut pas qu'on les dénigre, et pourtant, le glorieux le plus beau.
Keynes, négociateur de Versailles, n'est pas d'accord avec le tigre, ni même avec son premier ministre libéral, alors qu'il est généralement proche du Parti libéral. Il va claquer la porte de la négociation et publier son premier livre important.
Les conséquences économiques de la paix. qui est un livre absolument essentiel, qui se vendra énormément. Et d'ailleurs, Keynes fait un coup, si je puis dire, là-dessus, puisqu'il refuse les propositions de son ami Macmillan aussi. Je ne vais pas dire quels étaient les rapports de Keynes et Macmillan, c'est l'éditeur.
On l'a compris.
Mais on a compris. Bon, mais il refuse et il décide de le publier à compte d'auteur parce qu'il prévoit que ça va être un immense succès. Et ça devient un immense succès. Il devient très riche, d'ailleurs, suite à cette publication. Et il dénonce très, très, très fermement la politique de réparation qui dit va asphyxier l'Allemagne et va sans doute provoquer. Il est très, très très pessimiste, va provoquer sans doute une revanche, un désir de revanche chez l'Allemagne.
Donc de ce L'Europe côté-là, ne peut se passer de l'Allemagne,
absolument.
Dit cet Anglais de Cambridge.
Et déjà, il prévoit une sorte de marché commun allemand, franco-allemand et les bases de la future Europe que nous connaissons aujourd'hui.
La journée dans les années 20, il la commence à Cambridge, au lit.
Oui.
Je voudrais que vous disiez qu'au lit, il fait aussi sa correspondance le matin.
Il fait sa correspondance le matin, il passe ses ordres de bourse, il commande son déjeuner et il commence à préparer son après-midi et sa soirée, c'est-à-dire ses rendez-vous et la sortie qu'il fera le soir.
Oui. Oui, alors la sortie qu'il fera le soir, on en parlera tout à l'heure. Les rendez-vous, j'imagine que c'est avec les puissants, avec le grand journal économique, la grande revue économique dont il est le pilier. Mais la City, alors c'est un spéculateur. Mais d'habitude, on dit du mal des spéculateurs. Dans la morale commune d'aujourd'hui, on explique que c'est pas bien. Que l'entrepreneur, c'est bien. Que le spéculateur, c'est pas bien.
Et on fait en général ce contresens en disant Keynes, c'est pour les entrepreneurs, contre les spéculateurs. Or, lui-même, non seulement il a été un grand spéculateur, il a même joué, on peut le dire, l'argent de sa famille sans que sa famille le sache. Il a même joué contre la livre sterling quand il sentait que la livre sterling n'allait pas bien. Il a fait entreposer du blé à un moment donné parce qu'il spéculait sur le blé.
Oui, alors il jouait sur les matières premières et il avait trop de blé. Et alors il a demandé à Cambridge, à son collège, dont il était administrateur, on ne peut pas utiliser la nef de l'église pour stocker le blé. Il faut le faire.
Il faut le faire, oui. Donc il a été... c'était vraiment un personnage qui spéculait. Et il considérait que, après tout, la spéculation, c'était la prise de risque et que le spéculateur contre comme l'entrepreneur, prenait des risques et puis il payait ses risques lorsqu'il perdait. Le personnage qu'il n'aimait pas, c'était le rentier. C'était celui qui percevait des fonds comme ça, un peu comme une taxe, parce qu'il existait, du fait d'exister, percevait des fonds sans jamais prendre de risques. Et il dit d'ailleurs, à la fin de la théorie générale, que ce qu'il souhaite, c'est l'euthanasie du rentier. C'est-à-dire qu'il souhaite la disparition des rentiers qui sont les personnages qu'il déteste.
Rassurez-vous, chers auditeurs, il avait le goût de la provocation,
oui, Keynes. Mais il était extrêmement favorable aux spéculateurs, aux hommes d'affaires. Il disait, les hommes d'affaires, il y a trois catégories de personnages dans la vie. Il y a d'abord les créateurs, les intellectuels, les peintres. Bon, et puis il y a ceux qui n'ont pas ce talent. Donc ceux-là, en général, c'est des hommes d'affaires, des spéculateurs. Et il vaut mieux que leur abondante libido, c'est encore un terme assez freudien, leur abondante libido se passe là-dessus, sur la spéculation, sur la création d'entreprises, plutôt que de terroriser ses voisins. Voilà.
Et puis quand on gagne de l'argent, on peut aller dans les galeries l'après-midi, acheter des tableaux. Et le soir, au spectacle, il n'a pas manqué les spectacles des ballets russes. Pas oublié, puisqu'il aimait la provocation, le scandale qu'ils avaient pu provoquer, par exemple, avant-guerre. Bravoure du début du film Coco et Stravinsky de Jan Koonen, écho de la première du Sacre du Printemps. Et même après la guerre, la compagnie de Diaghilev garde ce goût de la provocation qui ne déplaît pas à Keynes, à qui ne déplaît pas non plus Lydia Lopokova.
Lydia Lopokova, qui est la première danseuse des ballets russes, qui elle aussi a une vie assez étrange, puisqu'elle a été plus ou moins... marié avec le producteur des ballets russes, ensuite avec un général de l'armée blanche qui était en fuite. Elle s'est enfuie, plus ou moins, elle a divorcé. Mais finalement, Keynes, à la grande surprise de ses amis de Bloomsbury, il a failli se fâcher avec eux d'ailleurs à cause de ça, eh bien, renie son passé, si je puis dire, et décide de convoler en juste noce avec Lydia Lopokova. Et ce sera un couple extrêmement uni, et non seulement très uni, mais ils chercheront à avoir des enfants, ils ne pourront pas avoir d'enfants.
C'est vraiment un mutant, Keynes. Ouais. Portrait du couple par Ignace de l'Argentais, qui est la fille du traducteur de Keynes en France.
Keynes nous a invités avec sa femme à dîner et nous avons sablé le champagne en chambre tous les quatre, c'était très gai. C'était un homme qui avait un charme fou, et qui avait un sens de l'humour, qui perçait à chaque mot presque qu'il disait. Et un regard très perçant, qu'on n'oublie pas. Elle était charmante, elle était petite, menue, très vive. Elle ne dansait plus à ce moment-là. Elle avait peut-être une soixantaine d'années.
Elle avait dit « je suis le second violon ».
Oui, John est le premier violon et je suis le second violon.
Encore un peu de champagne peut-être, Bernard Maris.
Il paraît que sur son lit de mort, ça a été sa dernière phrase, son regret, c'était de ne pas avoir bu assez de champagne. Il adorait le champagne.
Il est temps quand même de parler des grands livres. Traité de probabilité. Oui. Parce que c'était un homme qui avait le goût de la statistique et qui aurait pu être un grand mathématicien. Oui. 1921.
Oui, il a hésité d'ailleurs entre la thèse... Il a fait une thèse de maths, hein, avec Whitehead, qui était un apôtre, qui était un des grands logiciens de son époque. Et puis, finalement, il a choisi l'économie. Mais c'était un bon mathématicien. Il était obsédé par l'idée du futur, de l'incertitude, de la probabilité. Il était extrêmement... Et il a proposé, il a dit, disent les mathématiciens, une théorie des probabilités extrêmement originale, en essayant de passer au-delà des probabilités objectives, celles qu'on connaît, hein, la loi des grands nombres. Donc lui, il a essayé de proposer une théorie des probabilités entre les probabilités objectives et les probabilités subjectives, parce qu'il pensait que le problème de l'homme, dans ses choix, c'était l'incertitude radicale. Et beaucoup d'économistes actuels se sont emparés de ces idées de Keynes en disant « Ben oui, mais quand on est dans une incertitude radicale, comment agir, comment décider ?» L'économiste lambda, si je puis dire, il a besoin de rationalité, de choses sûres, de choses certaines.
Et le Keynes, c'est bien l'incertitude, ça laisse une place à l'histoire.
Voilà, absolument, exactement. Il y a des choses, à l'irréversibilité, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer à l'histoire, vous l'avez dit.
1930, le traité de la monnaie. Alors, on nous explique d'habitude que la monnaie, ben, ça sert à échanger des biens. Pas du tout, dit Keynes. C'est une attitude par rapport à l'avenir.
Oui, bien sûr. Et Keynes découvre... Les économistes jusqu'alors pensaient que la monnaie, c'était l'échange. Et puis finalement, on échangeait les produits contre les produits. C'était les Français qui pensaient qu'on échangeait du travail contre de la marchandise. Bon, c'est une idée de bon sens, si je puis dire. Et Keynes dit non, la monnaie, c'est le pont entre le présent et l'avenir. Au fond, c'est ce qui permet de détruire cette incertitude qui fait peur à tous les hommes. La monnaie, c'est le pont entre le présent et l'avenir. Donc, la monnaie, c'est surtout le moyen de préparer l'avenir et de réviser ses choix. Ce qui fait que lorsque vous avez de la monnaie, vous êtes dans le brouillard total. S'il n'y avait pas de monnaie, eh bien, je pourrais échanger du travail de Jean Lebrun contre le mien, par exemple. Mais, j'aurais pas... Mais là, comme j'ai de l'argent, je peux revenir en arrière et je peux changer d'avis. Et c'est pour ça que l'économie est si compliquée et c'est pour ça que la spéculation existe. Parce qu'il y a de l'argent. L'argent est porteuse de violence et de spéculation, disait-il. Et ça aussi, les économistes contemporains, certains, s'en sont emparés pour dire que, après tout, les mouvements de foule expliquent plus facilement l'économie que la raison.
L'économie doit faire sa place à l'histoire et faire toute sa place à la psychologie. L'épargne, au fond, mesure notre inquiétude. Si on épargne, c'est parce qu'on est inquiet. Et puis, de temps en temps, on accepte de se séparer de notre argent, mais c'est une autre inquiétude qui naît. Alors, du coup, c'est cette inquiétude qui détermine le taux d'intérêt.
Oui, voilà, c'était là. Contrairement aux économistes classiques qui liaient le taux d'intérêt à l'investissement d'un côté et l'épargne de l'autre, et que, bon, selon qu'on demandait l'argent, certains demandaient l'argent qu'avaient épargné les autres, il dit non, c'est pas du tout ça. Il dit non, lui, le taux d'intérêt, la base du taux d'intérêt, c'est l'argent qui définit le taux d'intérêt. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'argent. Il faut qu'il y ait beaucoup de liquidités parce que ça fera pression sur le taux d'intérêt et le taux d'intérêt sera faible et les entrepreneurs avec un taux d'intérêt faible pourront investir. Mais le cœur de la définition de taux d'intérêt, c'est la demande d'argent. Et ce n'est pas du tout l'épargne et l'investissement.
Alors monnaie, épargne et puis dès les années 20, sa réflexion commence à s'orienter à cause de la crise qui ne touche pas que l'Allemagne mais aussi l'Angleterre, homme malade de l'Europe des années 20. Vers la question de l'emploi. Et puis la crise s'étend, elle gagne les États-Unis, où il va, où son influence est croissante.
Quand je me suis promené le premier jour dans ce cœur de New York, j'ai vu ce qu'on n'avait jamais vu, c'était les bread lines, la ligne de pain. Et il faut imaginer des milliers d'hommes et de femmes attendant patiemment leur tour d'avoir une tasse de café et un morceau de pain.
Voici qu'à l'occasion des fêtes de Noël, des masses de malheureux sans travail, partis de différentes régions, se dirigent sur Washington en lugubre procession. La plupart des centres industriels américains seront bientôt incapables de secourir efficacement leurs indigents. Cet hiver sera pour la grande nation américaine une des plus cruelles épreuves que son histoire ait enregistrée jusqu'ici.
C'est un son de 31 avec un commentaire de 31 de Joseph Kessel. C'est en 32 que commence à mûrir la théorie générale de l'emploi.
De l'emploi, il faut très bien, c'est le premier
terme. De la monnaie, oui. Qui paraît en 36.
C'est une théorie absolument révolutionnaire. C'est-à-dire que jusqu'alors, tous les économistes disaient « Bon, écoutez, il faut que l'État intervienne le moins possible, sinon pour faire respecter les règles du jeu, il faut laisser faire la loi de l'offre et de la demande, laisser faire, laisser passer. » C'est la bonne vieille idée du marché qui s'autorégule et qui retrouve son équilibre tout seul. Et Keynes dit « Non, non, là, il y a vraiment un déséquilibre durable qui va durer. Et pour sortir de ce déséquilibre, eh bien, il faut que l'État se substitue à l'entrepreneur défaillant. Eh bien, il n'y a pas d'investissement privé. Il faut que l'État fasse de l'investissement public et fasse de la dépense
pas
publique.
Pas dans n'importe quelle condition, parce qu'il est nécessaire de prendre des décisions qui ne seront pas prises par d'autres quand on est l'État, mais il ne faut pas les prendre à contre-temps.
Non, il faut donner du pouvoir d'achat, il faut que de l'argent circule, il faut que les gens aient envie de consommer, et ayant envie de consommer, eh bien, ils créeront leurs propres revenus. Ce qui est tout à fait révolutionnaire, ce qui est complètement une théorie de la relativité par rapport à la physique newtonienne. C'est-à-dire que Keynes dit, vous allez donner de l'argent, et par cet argent qui va être consommé, les gens vont créer leur propre salaire futur. C'est incompréhensible pour la plupart des économistes. Et même aujourd'hui encore, beaucoup d'économistes ne peuvent pas admettre ce genre de choses.
Et ça va donner envie d'embaucher aux entrepreneurs. Parce que l'emploi n'est pas régi par la loi de l'offre et de la demande, comme vous le disiez. Il est d'abord régi par la décision ou non d'embaucher que prennent les entrepreneurs.
Bien sûr. Mais pour embaucher, il faut encore que je produise des choses que les gens vont consommer. Donc si je donne de l'envie de consommer, c'est ça la théorie keynésienne aux gens, eh bien je vais créer de l'embauche, donc je vais créer du salaire. Et je vais créer le salaire qui va me permettre de payer la consommation. C'est complètement extraordinaire comme théorie. Il a quand même un bouleversement, comment dire, conceptuel qui est très très fort chez Keynes. C'était vraiment une révolution. On a eu raison de parler de révolution keynésienne.
Et voilà que Bernard Maris entre au conseil, au bureau de la Banque de France au moment où celle-ci annonce qu'elle va réduire son personnel et qu'il ne doit pas dépasser 10 000 employés. Mais c'est une autre affaire. Il était au bureau de la Banque d'Angleterre, il était au cœur du pouvoir. On parle toujours de Lord Keynes, c'est pas de vous, Bernard Maris, à Londres. Il n'a pas vu venir la guerre, c'est le principe d'incertitude que vous décriviez.
Il s'est trompé, il pensait que la guerre serait courte.
Mais la Seconde Guerre le propulse à un rôle de plus en plus central. Le New Deal de Roosevelt, qu'il admirait, avait d'autres sources que lui, n'avait pas fini la récession. La récession a été vraiment inversée à cause des investissements publics que les industries d'armement ont injectés dans l'économie. Alors, on va entendre ici des extraits d'une vidéo brillante qu'on peut voir sur notre site, qui a un succès extraordinaire chez les professeurs d'économie et chez les élèves des lycées. Elle est signée Roberts et Papola. Nous sommes devant une commission parlementaire qui prend des allures de combat de boxe. Son président dit, alors on est réunis pour juger de l'effet des investissements publics. Et il y a deux économistes. Il y a Keynes, qu'on connaît bien maintenant, grâce à vous, Bernard Maris. Et puis à côté, dans ce combat de boxe, il y a Hayek. Hayek,
l'anti-Keynes, vraiment, ouais. Qui est vraiment le libéral des libéraux.
La London School of Economics. Un petit Autrichien qui est maltraité, d'ailleurs, à l'entrée par les gardiens, parce qu'il n'est pas aussi brillant que Lord Keynes. Écoutez bien.
John Maynard Keynes, F.A. Hayek, round 2, round 2.0. Same economists, same beliefs, new microphones, new mustaches.
Situation we choose, more bottom up or more. down. We could have done better had we only spent more. Too bad that only happens when there's a world war. You can carp all you want about stats and regression. Do you deny World War II cut short the depression?
Wow, one data point and you're jumping for joy. The last time I checked, wars only destroy. There was no multiplier. Consumption just shrank as we used scarce resources for every new tank. Pretty perverse to call that prosperity. Ration meat, ration butter, a life of austerity. When that war spending ended, your friends cried disaster. Yet the economy thrived and grew faster.
Mille pardons, on n'a pas traduit volontairement pour garder le rythme, mais la vidéo est sous-titrée sur notre site. Keynes dit, hein, la guerre, ça a arrêté la dépression, et Hayek. La vidéo, elle est plutôt favorable à Hayek. Bah oui, mais la guerre, ça ne fait que détruire. La consommation a diminué pendant qu'on dépensait de l'argent public que pour construire des tanks. C'est plutôt pervers d'appeler ça prospérité, Lord Keynes.
Oui, mais Keynes n'était pas un théoricien fou de la croissance et de la dépense publique comme on l'a cru. Dans la fin de la théorie générale, il parle de l'étrange prophète Silvio Geisel. Et je pense que Keynes, il faut que les auditeurs le sachent, est un précurseur des théories de la décroissance ou de la stationnarité. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour une folle croissance. Il pense que nous sommes dans une période où les hommes doivent moins travailler, doivent se consacrer aux arts, au théâtre.
Sur Parce la que vous appelez la décroissance, là, Bernard Maris, ne dites pas ça à la Banque de France. Non. Dites plutôt croissance intelligente,
voilà,
et civilisée,
c'est civilisée,
pour satisfaire nos besoins vitaux en fonction d'une bonne vie.
Absolument. Voilà. Sa dernière grande réalisation, c'est le théâtre de Cambridge, effectivement, où son épouse a pu jouer, où il avait essayé de mélanger le côté théâtral et la réception, le restaurant. Il fallait que les gens soient bien accueillis. C'est un hédoniste. C'est vraiment un grand jouisseur de la vie, un grand profiteur de la vie. Ce n'est pas quelqu'un de très populaire. Hein. Il n'aime pas la populace. Il aime bien quitter le chômage parce qu'il n'aime pas les désordres. Ce n'est pas quelqu'un qui aime les désordres, mais il aime la belle vie, la bonne vie, il aime les lettres. Bon, c'est quelqu'un
de raffiné. Il a eu tellement de vie. On a compté 7 un petit peu au hasard, qu'épuisé. En 1944, il préside encore la conférence de Bretton Woods qui crée le FMI et qui lui fait un triomphe.
Avec Harry White.
Il meurt en 46. Alors White, c'est l'Américain qui pensait pendant la guerre, comme lui, à un nouvel ordre financier mondial. Et la Grande-Bretagne étant très dépendante dorénavant des États-Unis, c'est White qui a gagné.
C'est White qui gagne. Et White, on le sait maintenant, était sans doute un agent russe. Alors, c'est à peu près démontré. Donc, c'est assez curieux que finalement, c'est pour cette raison que les Russes ont été invités à Bretton Woods, d'ailleurs. Ils n'avaient rien à y faire. Et White gagne. Et hélas, ce n'est pas Keynes qui gagne. Parce que Keynes voulait vraiment asseoir le système monétaire international sur une monnaie supérieure qu'il aurait appelé le Bancor. Et on n'aurait pas toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui si on avait eu vraiment le système de Keynes qui avait été mis en place. Donc, il a été ovationné. On a chanté tous « For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow » à la fin du FMI. Mais ce n'est pas vraiment Keynes qui a gagné. C'est, hélas, les Américains qui ont gagné.
Et les politiques keynésiennes qui sont menées dans le cadre de la modernisation d'après-guerre ne sont pas nécessairement celles que Keynes aurait promues. Alors ensuite, c'est la contre-révolution anti-keynésienne. Quelles sont les deux ou trois raisons, selon vous, très brièvement, qui justifient le retour de manivelle depuis 2008 ?
C'est le désordre monétaire international, c'est le désordre au niveau de l'euro, c'est vraiment la grande pagaille financière et monétaire internationale qui est fondée sur les aléas, la spéculation monétaire. Donc c'est ce que Keynes avait voulu éviter. Il disait il faut remettre le diable dans la boîte. Le diable, c'est l'argent fou. Et l'argent fou, c'est la spéculation folle, même si lui était un spéculateur, bien sûr, mais il ne fallait pas qu'il y ait cette spéculation, cette exubérance qui fait que, justement, l'argent fou détruit les économies. Donc je crois que c'est ça le grand retour.
Merci Bernard Maris. Votre livre, Keynes, l'économiste citoyen aux presses de Sciences Po. J'allais dire merci, monsieur le membre du bureau de la Banque de France. Et toujours chroniqueur à France Inter. On a noté simplement que vous ne faites aucun commentaire sur la Banque de France chaque fois qu'on aborde dorénavant le sujet. Éric Morin, Michel Bézikian à la technique. L'émission a été préparée par Meryl Moneghetti avec Frédéric Martin, Franck Oliva, réalisation Marie Casanova, et demain un sujet qui vous concerne, Maurice Genevoix. Il est 14h.